France Musique. Les grands entretiens, Anne Montaron, France Musique.
Je m'appelle Bernard Cavana, je suis né à Nogent-sur-Marne le 6 novembre 1951 et j'essaie de m'inscrire dans cette grande aventure de la musique écrite.
Je voudrais qu'on revienne un peu en arrière, Bernard Cavana, on a évoqué l'enfance. S'il y avait si peu de disques à la maison, alors il y avait effectivement les partitions que jouait votre mère.
Oui.
Et sinon, les musiques, elles venaient comment? Par la radio?
Au début, non, pas par la radio. Mais ma sœur a eu, à un moment donné, un électrophone stéréo. Et c'est à partir de là, j'ai acheté des disques. Tout le monde profitait de ce qu'on écoutait hein, dans la maison, donc on pouvait pas faire autrement.
Comme il y avait un disquaire à Nogent.
Magnifique, c'est une institution à Nogent. C'était Monsieur Jacquard qui était notre accordeur de piano. C'est une grande famille que les Jacquard. Et lui, il avait aucun disque de variété dans sa boutique. C'était que du classique. Et il conseillait, il disait ça, ça et ça. Il était magnifique. Mais j'achetais aussi à la Samaritaine parce que je pouvais voler les disques. D'en mettre deux. Je prenais, mettons, la pastorale et la mettais dans la cinquième et je le passais après à la caisse. C'était plus facile de voler à cette époque, comme j'ai volé plus tard des partitions. Mais chez des grands, jamais chez Jacquard, jamais j'ai volé. Non. Et puis, plus tard, ça a été la radio. On m'a offert un poste de radio et on pouvait capter les petites ondes et France Culture. Et je me souviens, les grands chocs musicaux, oui, il y a eu... Un regard sur l'enfant Jésus, je crois que c'était le dernier, le 20e.
Messian.
Les métaboles du Tilleux. Jeanne Aubuchet aussi, que je ne connaissais pas. Je découvrais cette musique. Quand j'avais 9 ans, j'avais l'impression que tous les compositeurs étaient morts. Mmh. Il n'y en avait plus. Et donc, qu'il y avait un créneau à prendre presque. Mmh. Mais plus tard, j'ai découvert qu'il y en avait d'autres, bien après. Déroutant d'ailleurs, hein, Stravinsky, Varèse, tout ça, c'était déroutant. Et puis d'autres encore vivants, voilà, et donc il fallait sans cesse comme ça.
Messian du Tilleux était vivant, effectivement.
Oui.
Du Tilleux, vous l'avez rencontré.
Et Du Tilleux, c'est un peu au culot, c'est assez fou. Après les métaboles, je me suis renseigné, j'ai su qu'il était prof à l'école normale, donc j'y suis allé, et là, j'ai demandé à lui montrer mes partitions. Il m'a donné un rendez-vous, c'était en 67, donc j'avais 16 ans, rendez-vous chez lui, 12 rue Saint-Louis-en-Lille, et j'ai amené des choses misérables, pitoyables. Et il ne m'a pas du tout envoyé balader. Il était adorable, très adorable. Il m'a dit que pour l'harmonie, ce n'était pas la peine que j'en fasse, que ça allait très très bien comme ça, mais qu'il fallait que je fasse du contrepoint. Donc je me suis inscrit en contrepoint chez Alain Bernot, qui est un personnage d'une autre époque, extrêmement doué, qui pouvait lire comme ça 32 clés d'ut et 2 clés de fa. Les devoirs des élèves, mais j'en ai fait que 3 mois de contrepoint. C'était une.
En plus, c'était dans quel conservatoire, quelle école?
Non, c'était à l'école normale.
Ah oui.
À l'école normale, mais je comprenais pas que la musique pouvait se faire ainsi, et je ne supportais pas non plus l'ambiance trop bourgeoise. D'ailleurs, je me souviens très bien que dans le secrétariat pour l'inscription, il y avait une mère d'élèves qui demandait la dimension du diplôme de solfège pour pouvoir l'encadrer. Moi, je voyais pas ma mère encadrer un diplôme chez moi. De toute façon, j'en avais pas. Mmh. Et donc, je n'aimais pas cette ambiance. Mais plus tard, après, j'ai revu Du Tilleux à partir de l'âge de 18 ans, une fois par an. Et il m'accueillait toujours. Et gratuitement, je lui écrivais parce que ça se passait par courrier. Il me donnait un rendez-vous et j'y allais, et souvent accompagné d'un de mes amis peintres, Joël Beaumont. Je l'amenais pour pas que je sois, comment dire, berné, parce que si Dutilleux m'avait dit un compliment, je l'aurais moussé. Et je voulais être honnête avec son jugement, et d'avoir un témoin, ça m'aidait beaucoup. Ouais. Il ne me recevait pas une demi-heure, c'était une après-midi. Il parlait de Parsifal, il me parlait de Stravinsky, même d'un manuscrit de Stravinsky. Il me disait qu'à l'œil nu, de regarder ça comme ça se tendait, comme une peinture. C'était formidable. Sa femme aussi, Geneviève Joie, était...
Grande générosité, alors, de sa part.
Grande générosité, Dutilleux, jusqu'à la fin de sa vie.
Quelle ressemblait votre musique de l'époque, alors celle que vous montriez à Henri Dutilleux?
À Dutilleux, c'était, à 15 ans, c'était inintéressant, c'était peut-être proche de Scriabine. Et en 67, oui, il y a une pièce que j'étais adolescent, crise d'adolescence, destin incapable, je crois que ça s'appelait comme ça. Et là, je flirtais avec la dissonance. Mais tout en gardant un lien avec une harmonie, avec dissonante aussi, mais c'était une harmonie. Et au fil de mes découvertes, parce que je fréquentais aussi beaucoup les concerts, les festivals, et au rythme des découvertes, bon, bien sûr, la musique se complexifiait. Je me rappelle d'avoir amené une fois une pièce à Henri Dutilleux pour 12 voix, colorateur solo, 6 percussions, 2 pianos accordés en quart de ton et 12 cordes. Et la première page, j'en étais pas vraiment sûr, mais les 50 autres, j'en étais très fier. Et la première page, il la regarde avec beaucoup d'attention, il prenait un temps infini à regarder une page. Et tout ça gratuitement. Et il m'a dit, mais oui, c'est formidable ce qui se passe, ce son. Alors je lui dis, s'il aime la première page que moi je détestais, alors tout le reste, ça va être un chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre du siècle. Et puis, petit à petit, il descend les autres pages de la pièce en disant, je vois bien ce que vous avez voulu faire, mais ça ne va pas sonner du tout. Et il m'a descendu la pièce jusqu'à dire, oui, à un moment donné, il y avait un accord mi majeur. Il me dit non, ça c'est pas possible, etc. Voilà. Mmh. J'ai remis cette partition au placard, à la poubelle, et petit à petit, il y a une pièce qui trouvait très bien, et on a commencé à monter notre premier concert à Paris, où on louait aux billets, donc on louait à la fois la salle, les affiches, on les collait nous-mêmes, on payait les musiciens. J'ai invité pour la première fois l'ensemble Assai Bocci, qui était un ensemble très prestigieux, avec Alain Zepfeld, Rachid Saphir, Xavier Tamalet, des gens formidables, Régis Oudo, et on a fait une première partie Gisvaldo, et la deuxième partie, cette pièce que Dutilleux aimait bien, et Francis Bayer, qui était un prof et compositeur que j'avais connu à la faculté de Paris 8. Et dans l'assistance, il y avait Dutilleux et Jean Kalevitch. C'était pas mal quand même.
Pas mal.
Plus Andréani, qui était la directrice du département de musicologie.
Elle s'appelait comment cette pièce?
Ah, je l'aime pas du tout, mais poème pour si. C'était un peu pour singer aussi la pièce de Messiaen, poème pour mi.
Bernard Cavana, vous disiez tout à l'heure, j'allais beaucoup aux concerts, j'allais sur les festivals. Il y a un festival qui a joué un rôle très important, c'est le festival de Royan.
Ah oui, j'y suis allé en 70, 71.
Oui.
Et là, je partais en deux chevaux de Paris et je suis arrivé juste au moment où Alain Louvier déclenchait le premier temps d'une pièce qui s'appelait Canto 2 d'Aurel Stroé, que je ne connaissais absolument pas. J'étais debout au fond de la salle. Et je fus vraiment émerveillé. C'est ce qu'on appelle un choc musical, comme le fut aussi avant les métaboles. de Dieu. Et pourtant, dans ce concert, il y avait peut-être la première audition en France du concerto pour violoncelle de Ligeti. Il y avait une pièce de Penthier, notre pianiste national, mais qui était compositeur aussi, et une pièce de Kouroupos. Je me souviens très très bien de ce programme et de cette année du Festival de Royan. Il y a eu la cérémonie de Méphano, dirigée par Dabachnik et Méphano aussi. C'était vraiment un des moments d'immense découverte. Alors Strauss, j'ai essayé d'avoir des renseignements sur lui. Je suis allé chez Salabert. Peut-être que j'ai volé chez Salabert une partition, c'est possible. Mais voilà. Et pendant 7 ans, je n'ai plus rien entendu parler de lui. Et en 79, une mezzo-soprano, Anne Bartelloni, me dit qu'Aurel Strauss va venir à l'un de nos concerts, parce que je l'accompagnais en concert comme mauvais pianiste, dans un programme que nous avions consacré à l'idée de la femme. Et Strauss est venu. Bon, j'étais émerveillé qu'il puisse venir, mais je ne l'ai pas vu après le concert. Donc la mezzo m'a dit, bon, ça doit être certainement foutu, parce qu'il devait venir pour faire un casting pour son opéra qui devait être joué à Avignon, son opéra L'écho est fort. Et puis Anne Martellotti m'a dit, mais c'est un Roumain, ils peuvent sortir que l'équivalent de 50 francs en devise, et le Festival d'Avignon ne prévoit absolument pas ses frais de séjour à Paris, on est embêté, on ne sait pas comment faire. Et ben je lui dis, qu'ils viennent chez moi. Donc j'avais ce compositeur que j'ai admiré 7 ans auparavant, qui arrivait chez moi. Et quant aux deux, la pièce que j'écoute à Royan, c'est plus de 1000 sons comme ça qui partent de l'aigu jusqu'à l'extrême grave dans un déroulement hétérophonique. Et son opéra L'écho est fort, que j'ai entendu 7 ans après, débarre par 3 notes. Je lui dis, qu'est-ce que c'est que ce compositeur? Il vient avec des milliers de notes, et puis là, il commence son opéra avec 3 notes, do, sol, si bémol. Ouais, voilà, c'est pas plus que ça. Une œuvre magnifique de Strauss. Et donc, je l'ai hébergé le temps jusqu'au Festival d'Avignon. Et puis,
vous aviez 28 ans, hein, quelque chose comme ça.
Oui, c'était en 79.
Oui, c'est ça, ouais, quand 28, vous l'avez hébergé. Ouais. Vous étiez encore quasiment étudiant, vous ne gagniez pas vraiment...
J'étais prof de musique, et non seulement prof de musique dans les collèges, mais je donnais des cours de piano dans les conservatoires. Non, j'accompagnais les cours de danse, oui. Et puis je donnais des cours particuliers, mais en fait, il fallait de l'argent, oui. Il fallait qu'on s'en sorte.
France Musique, les grands entretiens de Bernard Cavana.
Est-ce que vous avez joué de l'orgue à un moment donné?
Oui, j'ai toujours aimé les curés, et sans jamais croire en Dieu. J'ai jamais cru en Dieu, peut-être à l'âge de 8 ans, avec une vierge phosphorescente qui m'a fait un peu douter, mais ça durait quelques mois, c'est tout. Mais j'aimais bien leur contact, parce que c'est les gens qui étaient dévoués comme ça, avec leurs fidèles, avec les gens, et très ouverts. Et ils avaient besoin d'un organiste pour leur messe, les cérémonies liées au mariage, aux enterrements. Et puis moi, ça me disait bien de travailler sur un instrument avec le pédalier. Et en plus, c'était des curés qui étaient en lien avec une abbaye à Juvet-Mondet, en Normandie, où il y avait un orgue magnifique, facture Pariso. C'est avec un cromorne, je me souviens. Et j'adorais cet instrument. Lorsque j'allais là-bas, avec mon ami toujours, Joël Pommeau, le peintre, on faisait des concerts toute la nuit, on jouait. Et à un moment donné, il y a un moine qui est venu nous voir. Est-ce que vous pouvez arrêter parce que ce père ou frère, machin, est en train de mourir? Ça me restait.
Vous aviez quel âge alors quand vous jouiez de l'orgue?
Ah là, c'était plutôt.
Dans les messes.
C'était dans les débuts des années 70. 20, 21 ans, 22 ans, oui.
Vous n'aviez eu aucune initiation, un autodidacte complet?
Non, un autodidacte, mais j'étais un très mauvais organiste. Mais c'est un instrument qui me plaît. C'est un instrument qui est un peu décrié en ce moment, mais moi j'ai beaucoup d'admiration.
Musique.
Quelle est justement votre relation à la religion? Vous l'avez dit tout à l'heure, vous aimiez les curés.
Oui.
Est-ce que vos parents vous ont inculqué une éducation religieuse ou une pratique?
On est obligé, un peu à l'époque, soit on était croyant, soit on était communiste à nos gens. Mon père était très croyant, fortement, avec nous. Ma grand-mère qui allait à la messe tous les jours, mais ma mère non. Ma mère, elle était protestante, elle a dû croire en Dieu dans sa jeunesse, mais elle n'y croyait plus après. Comment croire en Dieu après toutes ces saloperies, toute cette catastrophe, cet holocauste, c'est impossible. L'acte de prière même m'a toujours un peu effrayé. Comment on peut invoquer quelque chose pour qu'il y ait une relation personnelle à soi? C'est une... Pourtant, une grande personne, intelligente, croit en Dieu, mais pour moi, ça a toujours été une stupidité sans nom. C'est comme celui qui se signe avant de commencer son match de foot. Pourquoi Dieu serait pour Châteauroux ou la J-Auxerre? C'est... Je comprends pas ça, ce geste-là. Et d'ailleurs, je ne comprends pas comment on aura pu créer des milliards de planètes, des milliards de galaxies, des milliards et des milliards, et que Dieu s'intéresserait comme ça à ce que je couche avec Mauvaisine ou pas. C'est dans les commandements. Alors si les commandements parlent deux fois de l'adultère, dans les 10, on fait quand même pas mal, si cette parole et celle de Dieu, alors je crois pas à cette parole de Dieu qui retourne à sa copie. Alors quand je parle avec des croyants de ça, ils me disent « Oui, mais ça, c'est les hommes qui ont inventé ça. » Mais qu'importe, pourquoi avoir ce besoin qu'on ne soit pas là par hasard? On est là par hasard. Et pourquoi cette volonté d'avoir une postérité? On est venu au monde pour rien, on va laisser quelques traces, mais c'est ces traces qui justement montrent que notre tragique situation est notre tragique situation et celle où tout lien, le plus fort soit-il, est condamné à se rompre par l'un ou par l'autre. Mais voilà, c'est cette situation tragique sur laquelle on doit réfléchir, mais réfléchir entre nous et se regarder entre nous, mais surtout pas avoir cette parole verticale. Ça, je trouve ça effrayant, mais le fait d'être toujours dans cette crainte de Dieu, c'est pas possible. C'est un blasphème, vraiment, à notre société, à notre condition d'humain.
À notre liberté d'humain.
Oui.
Alors justement, parlons, évoquons la seule œuvre religieuse que vous ayez conçue, la messe, des années 90. Hein.
Oui, alors là, c'était une commande de Maurice Ohana qui dirigeait le Festival d'Art Sacré à l'époque. Moi, j'aimais beaucoup Maurice Ohana et j'allais souvent le voir. J'aimais bien sa parole un peu libre. J'aimais sa musique aussi, hein, beaucoup. Et il me commande une messe. J'avais eu au téléphone. Et je lui dis, mais tu sais, je crois pas en Dieu, mais on croit tous en quelque chose. Et moi, je crois qu'en la chimie du carbone, au précambrien, l'ordovicien, les premiers, voilà. Et puis, je tombe sur ce documentaire de Jean-Michel Carré, Galère de femme, et d'une parole minime, une femme qui veut chercher un hôtel au moi. Elle veut pas se retrouver dans un foyer, elle sort de prison, c'est pas pour se retrouver encore dans les conditions de la prison, donc elle veut un hôtel au moins, elle va dans une association caritative, et puis, évidemment, il n'y a pas de réponse. On ne peut rien à cette misère. Aujourd'hui, c'est la même chose. Je prends le périphérique et je vois bien qu'il y a des migrants qui dorment sur les sols humides, et on ne fait rien. C'est la situation du partage qui est ici donnée, c'est comment nous, avec nos idéaux de partage, on est réduit à l'impuissance parce qu'on est à la fois culturellement et naturellement conditionné pour se protéger de l'autre, pour accaparer. Et on peut donner 1 euro, 2 euros, 10 euros, et à la fin, on repousse la personne. Et c'est quand même aussi contraire à tous nos idéaux humains. C'est une contradiction folle que nos idéaux et cette réalité. Et là, je me dis, tiens, ça peut être le point d'accroche de cette œuvre plus ou moins liturgique. qui s'appuie en tous les cas sur l'ordinaire de la messe, et de l'opposer, le contrepointer avec une parole minime de cette femme qui cherchait un autel. Mais ensuite, j'ai mis d'autres textes. Le poème de Nathalie Méfano, qui est un poème merveilleux, écrit 2 jours avant sa disparition. Et puis une sale phrase de Klaus Barbie, lors de son procès, où, après un défilé de victimes ou de parents de victimes, qui décrivaient les conditions atroces de la disparition ou des tortures qu'il avait infligées, le président lui demande ce qu'il souhaite répondre à ça. Et il se lève, il dit « Herr Präsident, ich habe nichts zu sagen, Monsieur le Président, je n'ai rien à dire. » Et ça, je le fais crier dans ma messe, « Je n'ai rien à dire, je n'ai rien à dire. » Et ça se termine par la définition d'un bateau, ce qu'on appelle le Marie Salope, au pluriel des Marie Salope, ça se termine comme ça. Alors, on a créé un musica sous la direction de Rachid Saphir. Et ensuite, oui, cette pièce fut reprise longtemps par Ars Nova et Philippe Naon. Et c'était ma première et grande collaboration avec lui. Et parmi les plus belles collaborations que j'ai eues dans ma petite carrière.
Dans beaucoup de vos œuvres théâtrales, chantées avec du texte, il y a beaucoup de douleur, il y a du cri.
Oui, oui, il y a une violence. Je me suis interrogé sur mon travail, pourquoi il est si violent que ça. Moi, je n'ai jamais donné un coup à une personne, ni reçu même un coup. Donc, je ne suis absolument pas violent, comme mon père. Et je ne comprends pas qu'il y ait cette violence. Alors peut-être que c'est enfoui dans des arcanes sourde de la prime enfance, non oui. Pas que mes parents soient... Je crois qu'il y avait de la violence quand même chez ma mère vis-à-vis de nous, mais une violence sourde, un petit peu comme dans le film Ruban Blanc de Michael Haneke. Il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de délicatesse dans ces milieux-là. Pas uniquement avec mes parents, mais avec tous les rapports qu'on établissait à l'époque. Il n'y a pas d'égard, on s'en foutait, on disait les choses crûment. Prenez pas de pincettes. Et peut-être qu'il y a de ça. Mais moi, je pense que c'est davantage lié à cette idée que je vous ai dit par rapport au lien. On est des animaux de lien. Là. Même en tant que Covid, on a besoin de se toucher. Même si on se connaît peu, on a envie de tendre la main, on a envie de toucher l'autre. Et c'est ce qui est beau dans cette relation humaine. C'est qu'on nous sommes vraiment des animaux de lien. Mais tout en sachant qu'ils vont disparaître. Et peut-être que c'est ça qui engendre ce mécanisme de violence.
Oui. Vous avez aussi envie de toucher l'auditeur. Vous avez envie qu'il ait une forme d'empathie avec les personnages de vos pièces.
Oui, dans la messe, c'était un petit peu le but recherché. C'est que cette Laurence, qui était droguée, prostituée, sortant de prison, soit finalement l'incarnation de ce qu'on projette dans une sainte. Voilà. Elle était la Vierge Marie à la fin.
Le personnage de Laurence, incarné par Isa Lagarde, dans cet extrait de Messe un jour ordinaire de Bernard Cavana, à ses côtés l'ensemble Ars Nova dirigé par Philippe Naon. Réalisation Christine Amado et Claude Niort, avec Sébastien Royer et Flora Sternadel. La suite de ce portrait demain, podcast et réécoute sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.